Avec nous, Pascal Pacali, auteur de nombreux ouvrages en partie sur le rock, comme Rock Story 1 et 2, paru en 2009, Rock Addiction en 2011 et Rock Attitude en 2012. Vous êtes venu nous parler de votre livre La France et Rock, paru aux éditions Abatos. Pascal Pacali, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci de répondre à nos questions. Alors j'aimerais que l'on commence par vous présenter un peu plus amplement à nos auditeurs, avant de revenir sur votre ouvrage La France et Rock. Pouvez-vous donc nous parler de votre parcours qui vous a amené à avoir envie d'écrire des livres ?
Ça serait très très long. Alors je vais essayer de résumer.
Oui.
On va dire que ça part d'une adolescence qui n'est pas formidable comme beaucoup d'adolescents, donc mal dans sa peau, etc. Et donc voilà, je me suis mis à écrire de la poésie. Puis plusieurs poésies, et j'ai vu que voilà, il y avait des retours, que voilà, les gens me poussaient à continuer. Alors en vrai, c'est vrai que la poésie, en plus, c'est quelque chose, on va dire, entre guillemets, de facile, c'est-à-dire que c'est assez court, c'est pas comme un roman, etc. Voilà, donc du coup, j'ai écrit vraiment beaucoup de poèmes, et voilà, à la fin, donc j'ai trouvé un éditeur qui a même voulu me sortir un recueil, puis un autre. Donc voilà, ça a commencé à mettre un petit peu le pied à l'étrier. Et puis voilà, un jour j'ai écrit une nouvelle complètement fictive sur des jeunes qui voulaient monter un groupe de rock là, pour séduire les filles. Mmh. Et donc voilà, ça raconte un petit peu toutes les histoires. Et un ami m'a dit un jour, ça serait une bonne idée, pourquoi tu ne demanderais pas à de vrais groupes de raconter leur histoire, parce que bon, ça doit être plein d'anecdotes, etc. Ça doit être vraiment rigolo. Et j'ai dit, ouais, c'est une super idée. Donc du coup, j'ai commencé à contacter quelques groupes. Voilà, donc à l'époque, je vivais sur Lyon, donc c'était des groupes un peu de la banlieue lyonnaise. Je me rappelle, il y avait le premier groupe, c'était un groupe qui s'appelle Subway, qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui. Donc voilà, après, voilà, j'ai commencé à les interviewer, puis de fil en aiguille, j'ai interviewé d'autres groupes qui, voilà, ça a donné Rock Stories. Donc voilà, c'est vraiment des nouvelles qui racontent la vie des groupes, en fait. Et des petites biographies, quoi, et mmh. voilà, donc qui sont faites après avoir interviewé voilà des groupes. Et ça, c'est, j'y tiens, parce que voilà, je veux qu'on sache que voilà, c'est toutes les informations, c'est les groupes, c'est voilà, c'est la source, c'est la base, c'est tous eux qui me disent voilà donc, ce qui a matière à écrire, quoi.
D'accord.
Donc voilà, c'est principalement ces livres-là qu'on peut retenir aujourd'hui, quoi.
Le titre de votre livre, donc, c'est La France et Rock, donc mmh. c'est pas une question, c'est une affirmation, une constatation, en fait.
Ah, c'est une constatation, un espoir, un rêve, un désir, une réalité, c'est un peu tout ça à la fois. C'est montrer que, comme je dis toujours, en France, on n'est pas médiatisé au niveau du rock, en tout cas. En France, on n'a pas la culture américaine, on n'a pas la culture anglaise. Voilà, eux, ils avaient les Clash, Bowie, Ramon, New York Dolls, tout ça. Et c'est vrai que nous, bah, voilà, on est les enfants des yéyés, quoi. Donc, en plus, tout ce qui était yéyé, ça pompait chez les Américains. Donc, c'était voilà, vraiment pas... Entre guillemets, c'est pas glorieux au départ, quoi. Donc, mais voilà, il y a quand même des choses qui se font. Et il y a beaucoup de groupes indépendants, de groupes rock, quoi, tout simplement. Et aujourd'hui, ouais, c'est très dur pour eux d'être médiatisés, parce que, comme je te disais, on n'a pas cette culture-là. Mmh. Et c'est pas aujourd'hui ce qui fait vendre, donc du coup on n'en parle pas à la télé ou même ailleurs, ou très peu. Et donc voilà, c'est des gens qui se battent, qui ont un rêve et qui font toutes les routes de France, qui galèrent en voiture, en camion, avec toutes ces anecdotes qui peuvent arriver, entre les pannes d'essence, entre la fatigue, entre les histoires d'ego, les fans, etc. Mmh. Donc ça raconte un petit peu tout ça, toute cette histoire, toute cette énergie qu'il faut déployer, cette foi aussi, parce que c'est une véritable foi. On prend un des groupes comme Dionysos, comme les Ocres de Barbac, qui sont dans le livre.
Ouais.
Voilà, c'est une dizaine d'années des fois avant, une dizaine d'années d'efforts pour réussir à exister. Mmh. Donc c'est parcourir toutes les rues, essayer de frapper à toutes les portes, tous les bars, toutes les salles, et proposer sa musique, et puis voir comment le public réagir. C'est se faire un réseau, c'est se faire des connexions. Et voilà, donc c'est un travail de très 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 longue haleine, mais voilà, il y en a qui s'accrochent, il y en a qui réussissent, et donc c'est de ça dont parle le livre.
Ouais, c'est une sorte de tour de France des groupes rock en France, en fait, hein, c'est ça, un état des lieux de...
Ouais, on peut dire ça, un état des lieux, ouais, ouais. C'est le bon mot.
Donc dans ce livre, vous allez à la rencontre de groupes rock français, certains plus connus que d'autres, hein. Comment vous avez procédé, par téléphone ou en les rencontrant sur les festivals?
Voilà, le maximum en tout cas, c'est de les rencontrer. Donc moi, je suis de Saint-Étienne, et j'ai la chance qu'à Saint-Étienne, il y a pas mal de trucs. Il y a des festivals, il y a des salles, il y a des zéniths, voilà. Donc il y a pas mal de passages. Mmh. Donc quand voilà, donc ça me donne l'occasion de les rencontrer, même après un peu plus loin sur Lyon. Donc voilà, comme je disais au début de l'interview, ce qui est important, c'est que voilà, c'est que moi je tiens à chaque fois à rencontrer les groupes pour voilà, pour que tous les propos qui soient écrits soient voilà, je veux pas qu'on dise ah ben tiens il a trouvé ça dans tel voici ou je sais pas quoi, etc. Donc ça, c'est vraiment les groupes qui se confient, parce que les interviews durent en général 2 à 3 heures vraiment. Ah oui. parce que c'est assez long, c'est forcément, parce qu'on part des débuts, on part de voilà comment dans l'éducation musicale voilà jusqu'à aujourd'hui, en les tournées, les histoires de groupes, voilà. Donc c'est ça vraiment, ça on touche beaucoup de choses, quoi. Donc voilà, et puis quand j'arrive, des fois quand c'est vraiment très difficile, ça peut être aussi par mail, quoi. Donc mais on privilégie toujours voilà le contact, voir, c'est beaucoup plus voilà, c'est aussi ça de toute façon. Après le rock, c'est une histoire où on se rencontre sur scène, en public. Donc du coup, voilà, c'est ce côté, voilà, moi je veux rencontrer les gens, parce que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus sympa, c'est ouais. beaucoup plus humain, tout simplement, même si c'est bête, à dire, quoi.
Vous utilisez un langage assez direct, assez cru parfois, donc c'est plutôt rock. Donc
le rock, voilà.
C'est pour coller à l'image rock, ou simplement c'est votre façon de vous exprimer
Mais non, mais
dans
on parle tous comme ça dans la rue.
Ouais. Donc, ça garde une certaine authenticité.
Ah ben oui, mais il faut, parce qu'on ne peut pas dire la France est rock, et puis en levant le petit doigt, en buvant du thé à 15h, quoi. Donc,
c'est sûr.
Voilà, donc après, si c'est même pas une, voilà, si on veut faire un état des lieux, c'est le rock, ça se passe comme ça, on dit tous des gros mots, il faut pas tromper le lecteur en employant des termes qui ne sont pas employés, quoi. Donc on est tous comme ça dans la vraie vie, et je voulais pas édulcorer ça, sinon après c'est plus du rock. Et puis
c'est l'impression qu'on a, hein. De toute façon, quand on lit, c'est qu'on sent vraiment, on a l'impression d'être dans la pièce, hein. Quand ça se passe, c'est vraiment voilà, de l'authentique, quoi, c'est ça. Alors j'ai choisi de parler d'un groupe que l'on programme souvent à la radio ici, qui est dans votre livre. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. On a justement interviewé Nicolas il y a quelques semaines avant la sortie de leur dernier album. Je parle bien sûr d'Archimède, originaire de Laval, qu'on adore ici, enfin bon, surtout moi. On a l'impression de rentrer vraiment dans leur intimité. Les groupes se livrent facilement, ils se sont livrés facilement à vous.
Oui, parce que j'ai quand même, donc comme tu as dit au départ, il y avait pas mal de livres rock, quoi, donc j'ai l'habitude d'interviewer les groupes, hein. J'ai dû en faire au total depuis les débuts plus d'une centaine, hein. Donc voilà, à force, tu as l'habitude, tu sais comment prendre. Et puis c'est vrai que en général, les artistes, les chanteurs aiment bien aussi, comment dire, ils aiment bien tout ce qui est les autres, tout ce qui est les autres arts, en fait. Essayer d'échanger avec des peintres, d'autres musiciens, des écrivains. Et donc le fait, voilà, d'échanger avec un écrivain, pour eux, je pense que voilà, il y a un côté, je vais essayer de voir, de gratter un petit peu comment ça se passe sous cet art-là. Et voilà, il y a une sorte de connexion qui s'établit entre artistes. Et voilà, après, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez ouvert, d'assez sympathique.
Le contact se fait facilement, quoi.
Voilà, après, à Saint-Etienne, on a la réputation.
Voilà, une petite bière sans alcool, et puis c'est parti, quoi.
Voilà, pas forcément sans alcool, hein. Faut le dire parce qu'on est à la radio, mais bon, après, autour d'une petite bière, tranquille, quoi. Donc, voilà, et puis c'est vrai qu'en général, les artistes, ils sont... voilà, pour rester en des termes quand même assez jolis, ils ont pas la grosse tête, ils sont assez cool, voilà. Donc il y a toujours des fois quelques surprises, mais voilà, en général, les mecs sont très cool, ils sont très très contents d'être dans un livre, donc voilà, ça se passe en général plutôt bien.
Ouais, donc il y a un chapitre dans votre livre, moi, qui m'a fait pratiquement mourir de rire, hein. C'est quand vous parlez du festival donc, qui se passe à Sail-sous-Couzan, donc un petit clin d'œil au passage à Aimé Jacquet en football. Vous pouvez nous parler un peu de ce passage? À la fin, je trouve que vous expliquez très bien d'ailleurs qu'en France, vous l'avez dit déjà au début de l'interview, on n'a pas la chance d'avoir les Beatles, les Rolling Stones, mais qu'on a un vivier de bénévoles et de groupes de vrais rockers français, loin des super festoches du gros showbiz, qui finit. Finalement, ça fait le titre de votre livre, c'est La France est rock, quoi. En fait, c'est la base, quoi.
Voilà, en fait, ça est ce cousin. Donc, comme tu l'as dit, c'est là où est né Jacquet, mais c'est aussi c'est un village en Haute-Loire qui, voilà, c'est, comment dire, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Pour avoir internet, c'est pas évident, donc c'est un petit peu perdu. Mais il y a quand même des... Voilà, c'est un petit village où tout le monde se connaît et puis où tout le monde a envie de s'investir dans quelque chose. Et des jeunes, qui sont un peu moins jeunes maintenant, ils ont envie de produire quelque chose, de faire quelque chose, et le rock est quelque chose qui leur parle. Et donc, c'est une tonne de bénévoles. Et voilà, il y en a qui font la cuisine, il y en a qui aident pour planter les tentes, pour faire la programmation, pour enfin tout prévoir. Quoi. Donc, il y a peut-être une cinquantaine de bénévoles ou plus. Et voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est fait dans une ambiance très festive. On se prend pas la tête, on est tous potes, même avec les groupes, voilà, les groupes ils jouent le jeu aussi, donc c'est vraiment, ouais, c'est un esprit de camaraderie où on se prend pas la tête, on oublie le quotidien, on boit des coups, on fait la fête, on fume quelques joints bien sûr, et donc on écoute tout ça, hein, toute cette camaraderie en écoutant voilà, de la musique rock, quoi. Donc c'est tout des chevilles ouvrières de France, en fait, au niveau du rock. C'est tous des gens qui donnent de leur temps. Ça se passe souvent des week-ends. Donc, du coup, c'est toute la préparation, déjà. C'est sur des mois à l'avance, des week-ends qui sont pris. Donc, c'est vraiment des passionnés. Et c'est pour ça qu'il était intéressant de leur rendre hommage, quoi, ouais. de dire, regardez, voilà, en France, tous ces gens... c'est, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de gros... des gros festivals, et c'est une bonne chose, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier...
Oui, le Hellfest, tout ça, ouais.
Voilà. Et il y a aussi, entre guillemets, tous les petits festivals où des gens voilà, se prennent sur leur temps, ne sont pas payés, et c'est eux aussi qui permettent aussi à de... Il y a forcément, une grosse ou moyenne tête d'affiche, mais il y a aussi plein de petits groupes. Ça permet à tous ces petits groupes, justement, d'avoir des dates, de se faire découvrir, et au public, justement, voilà, de les découvrir aussi. Donc, c'est vraiment des gens qui sont essentiels au rock en France. Quoi.
Et avez-vous une anecdote ou une histoire qui vous a marqué le plus spécialement que d'autres ? Alors, l'histoire du hot dog qui tombe par terre, mais il y a celle-là, mais il y en a d'autres, je suppose.
Et après, il y a ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire.
Ouais.
Moi, souvent, ce que j'aime bien, c'est que voilà, après, il y en a, on dit, voilà, il y a des trucs... on ne peut pas tout dire sur la drogue, quoi qu'après il y en a qui en parlent, hein, qui disent qu'ils sont un peu tombés dedans et que c'est très dur. Hein, c'est très dur.
C'est la réalité, il faut aussi des choses parfois.
Voilà, après, c'est peut-être un groupe sur 10 hein, qui a affaire à la drogue. Hein, parce qu'en France, c'est pas aussi, comme je disais, c'est une histoire de culture, etc. Et puis les jeunes, ils savent. Ils savent qu'aujourd'hui, si tu veux exister, il faut rester clean. Parce que si tu fais un concert et que tu es déjà bourré ou cramé, ton concert, il va être nul, il va être foiré, et plus personne ne t'appellera, et ta notoriété, elle sera négative. Mmh. Après, c'est souvent des histoires. Tous les groupes ont des histoires de camions, en fait, qui tombent en panne, des galères.
Ouais,
Par exemple, je discutais avec Pagoda Jones et voilà, il m'expliquait que voilà, on revenait sur une anecdote dont on avait déjà parlé, qu'on leur avait prévu un endroit où dormir, mais en fait non, il n'y avait pas d'endroit où dormir. Et puis voilà, on leur dit c'est pas grave, il y a un truc à 30 minutes, et puis il faut qu'ils fassent en fait 6 heures en pleine neige, en pleine montagne, et en pleine nuit, donc ils arrivent, c'est 4 heures du matin, voilà, donc et ils dorment tous ensemble dans la même pièce, donc avec les odeurs, de la sueur, etc. Donc c'est. Voilà, c'est des conditions, ça c'est un truc que tous les groupes ont expérimenté, parce que c'est des conditions un peu roots, comme on dit, et forcément c'est les débuts, donc voilà. Donc voilà, tous les groupes ont des histoires comme ça, ou de camions qui tombent en panne en pleine nuit, avec qui veut pas redémarrer, puis la fatigue n'aidant en rien, donc ça se transforme en bataille, en dispute, c'est tous des trucs galères, mais... qui montre que voilà il faut des fois il faut s'accrocher, que c'est pas évident. C'est vrai que de loin, d'extérieur, ça paraît super sympa de dire ouais, être un groupe de rock, c'est cool, on est sur scène, on joue, on a des fans, etc. Mais il faut voir un petit peu tout ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai que c'est pas évident, parce que des fois, on enchaîne les dates, et il y a la fatigue qui s'accumule. Voilà, et donc on vit 24 heures sur 24 avec 4 à 6 personnes. Donc, à un moment donné, il faut savoir gérer. C'est même pas des égos, mais voilà, quand tu vis tout le temps avec les mêmes personnes, et voilà, c'est pas évident, parce que chacun a sa manière de vivre, de fonctionner. Et donc, des fois, ça peut faire des petites étincelles, mais Mais c'est tout à fait logique. Et encore une fois, tous les groupes passent par là, quoi.
Ouais, c'est une grande aventure humaine.
Voilà.
Quoi, c'est...
voilà, donc, du coup, il y a certains groupes qui, voilà, qui, comme les Orques de Barbac, c'est deux frères, deux sœurs, et ils disent, nous, tous les temps au mois, tous les 4-5 mois, bah, on fait une pause pour pas justement, un jour, ne plus voir un pointure, quoi. Il faut que, voilà, on arrive à faire des pauses, parce que sinon, à un moment donné, ça va éclater. Donc, c'est toute la difficulté des trucs, parce que il y a des groupes qui veulent enchaîner les dates, et à un moment donné, et ben, tu fais un burn-out, quoi. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça, d'anecdotes assez, entre guillemets, rigolotes. C'est rigolo avec le recul.
Oui, eux, ça les a peut-être pas fait rire sur le coup, mais...
Sur le coup, mais voilà, maintenant, voilà. Et ils ont l'habitude aussi, voilà.
Ouais. On va revenir sur les autres livres que vous avez écrits. Vous avez écrit donc un livre sur le foot. Donc vous êtes stéphanois. Donc ça doit être difficile de passer à côté du foot, un peu comme à Marseille ou à Paris, je pense. Vous avez eu la même approche pour ce livre. Ce sont des nouvelles de supporters, d'entraîneurs, c'est ça?
C'est ça, ouais. Donc effectivement, en plus, donc moi je suis né en 77. Et en 77, il n'y avait pas Internet et ouais. Tout le tralala. Donc du coup, il y avait, même au niveau du rock, j'étais dans une ville à côté de Saint-Étienne, il n'y avait pas grand-chose. Donc quand t'as pas de salle, quand t'as pas Internet, puis en presse, t'as eu Best et Rock'n'Folk, mais encore une fois, c'était à l'époque, en tout cas, dans les années 70-80, c'était quand même desservi plutôt sur les grands axes, les grandes villes. Donc, fatalement, à l'époque, l'ASF, donc le club de foot de Saint-Étienne, mais, qui était au sommet de la France, il y avait, voilà, tout le monde y allait parce que c'était le club qui représentait la France, qui représentait la ville. Donc, du coup, je suis tombé dans la marmite, ou plutôt le chaudron, parce que c'est le nom du stade,
oui,
le chaudron,
c'est le nom du stade.
Et donc voilà, oui, j'ai voulu rendre hommage à tous ces, comment faut dire, aux acteurs du foot, parce qu'il y a des arbitres, et des entraîneurs, et des joueurs, et des supporters. C'est pour montrer en fait une autre facette du foot, parce que c'est vrai que le foot, aujourd'hui, on dit à plus ou moins juste titre que c'est que du pognon, etc. C'est pas faux, mais c'est, comment dire, c'est... faut comprendre que c'est juste une minorité de gens qui gagnent des salaires astronomiques.
Ah, oui.
Donc derrière, c'est pareil, il y a tous des petits clubs, tous des bénévoles aussi, que ça fait d'ailleurs, il y a une connexion d'ailleurs avec les petits festivals, quoi. Donc, et il y a plein de gens qui décarcassent pour faire exister des équipes de jeunes, parce que derrière, quand même, il y a tout un côté social. Donc, voilà, le jeune, s'il va dans une équipe de foot, ça l'évite de traîner dans la rue et de faire des conneries. Mais ça, voilà, on n'en parle pas de ce côté-là. On préfère faire... les médias préfèrent axer sur le truc, sur les buzz, sur les sextapes, tout ça, parce que ça fait vendre. Mais les trucs positifs, des bénévoles, des entraîneurs bénévoles qui se lèvent le dimanche matin pour aider d'autres gamins à grandir, ça, on n'en parle pas, quoi. Donc, du coup, moi, je voulais essayer d'axer plutôt sur des choses comme ça, ou sur aussi des joueurs dans les années 80 pour montrer que c'était à la fois différent et pareil, c'est-à-dire que t'avais toujours des histoires à l'époque, des petites histoires, mais qui prenaient des proportions beaucoup moindres, parce qu'il n'y avait pas autant de médias, t'avais pas les FMTV, t'avais pas Internet, et donc voilà, aujourd'hui le moindre petit truc prend une ampleur phénoménale, et à l'époque t'avais déjà des histoires, donc je raconte l'histoire de Yannick Stopira, et voilà, donc il y a plein d'anecdotes par rapport à la Coupe du Monde 86, dans laquelle il participe avec Platini, etc. Il y a plein d'anecdotes et c'est super marrant de raconter tout ça, parce que ça fait voir un petit peu l'évolution du foot à travers donc le football lui-même, les joueurs, mais aussi à travers le public, à travers les médias, quoi. Et c'est tout ça que j'essaye de raconter.
D'accord. Donc j'ai vu qu'il y a des teasers qui existent à propos de vos livres sur YouTube. C'est pas souvent qu'on voit des vidéos pour présenter des livres.
Ben ouais, on essaye de rester dans le coup, quoi. Donc c'est une façon comme une autre. C'est aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, le rock, c'est un truc qui n'est pas très médiatisé, donc c'est à nous aussi d'être malins. Et donc voilà, après, le teaser, c'est un truc qui permet de se faire connaître et on l'utilise volontiers.
Mais c'est vrai qu'en France, moi je vois par exemple pour Metallica ou Dream Theater, parce que je suis fan, on voit il y a 5-6 dates en Allemagne, 5-6 dates en Suède ou je sais pas où, et puis en France, il y a 2 dates à Bercy et puis genre à Marseille, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de dates, enfin ça fonctionne moins, je sais pas.
Pour ce qui est du métal, c'est encore autre chose, ça fonctionne, mais à un niveau plus underground. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de villes comme Toulouse, Marseille, Lyon, Paris, bien sûr, et qui font des choses, des concerts de métal. Quoi. Mais voilà, ça va rester une entre guillemets une poignée, ça va peut-être 100-200 spectateurs maxi, tu vois. Enfin, pour des entre guillemets petits groupes, quoi, des groupes locaux ou des petits groupes qui tournent. Donc c'est forcément le métal en France, c'est des satanistes, c'est des, tout ce que tu veux, c'est une musique qui est bourrée encore de clichés, quoi. Donc ça commence un petit peu à disparaître, mais bon, voilà, c'est quand même assez bon parce que c'est une musique qui fait beaucoup de bruit pour les gens, pour les yéyés, ça fait du bruit, donc du coup, voilà, c'est pas le truc très agréable à écouter, donc voilà, on n'a pas encore cette culture-là et que les autres pays ont, donc du coup, ça se ressent aussi au niveau du grand public, quoi. Donc voilà, mais par contre, il y a vraiment, je pense qu'un jour, je ferai vraiment un livre uniquement sur le métal français. Il y a vraiment un réseau formidable, c'est une toile d'araignée incroyable. Et d'ailleurs, c'est un vaste débat parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, il y a un débat entre ceux qui pensent, qui disent si un jour le métal français devient trop gros, il va perdre un petit peu de son âme parce que c'est quelque chose de entre guillemets pur et de sincère. Parce que justement, on a encore underground, etc. Et dès qu'on franchit une étape plus visible, plus grand public, plus médiatique, voilà. Donc il y en a qui sont aussi contents de rester dans ce niveau-là. Quoi.
Donc le rock en Sarthe, ça vous inspire quelque chose? Il y a des groupes qui tournent ici, Danaïd, Shuffle, Easy Strike, Lia, La Dernière Goutte. Vous connaissez quel groupe sartois?
Pas vraiment, franchement, là, les noms que tu me dis, ça me... Mais après, voilà, après, c'est... En France,
chaque région a ses petits groupes.
Moi je pourrais citer une dizaine de groupes stéphanois qui parleraient pas, mais voilà, après c'est ça aussi qui est super intéressant, c'est que voilà, en France on a des dizaines et des centaines de groupes, groupes locaux, quoi. Donc des fois c'est dommage parce que tu vois, il y a des bars qui font des efforts quand même, surtout en province, parce que Paris c'est encore autre chose. Mais en province, voilà, il y a quand même des fois, tu as deux ou trois concerts pour 5-10 euros. Et des fois, tu te dis, c'est dommage que les gens ne font pas les efforts aussi de venir, tout ça, voir des petits groupes, parce que c'est quand même super important pour eux d'être soutenus. Et puis surtout, voilà, c'est pas cher. Et souvent, quand même, c'est des groupes de qualité.
Ouais, de qualité.
Donc voilà.
Bah, nous, on a ce problème-là ici aussi. Hein, c'est comme ça. Voilà. Il y a des groupes, des bars voilà, qui essaient de faire des efforts, qui font venir des fois même au chapeau. Hein, c'est même pas payant. On boit une conso voilà, et on découvre que le groupe, il est super. Mais voilà, il y a 20-25 personnes. C'est toujours un peu dommage, mais bon.
C'est dommage parce qu'il n'est pas encore passé dans les circuits médiatiques. Il n'est pas passé dans les gros festivals. Parce que qui dit gros festival dit article dans les gros magazines rock. Dit télé aussi, et à partir de ce moment-là, tu prends une autre ampleur et les gens suivent, quoi. Il faut arriver à intégrer un certain circuit médiatique assez puissant ou des festivals, des gros festivals qui vont te permettre, voilà, de... Mais voilà, c'est une histoire de connexion, de réseau, de chance, et la chance aussi, ça se provoque, c'est-à-dire que faut être là au bon endroit, donc être là au bon endroit, c'est être là, c'est-à-dire que il faut faire des concerts, toujours. Il y a beaucoup de gros groupes qui ont commencé des concerts avec 4-5 personnes.
Quoi. Bah oui.
Et voilà, donc ils continuaient quand même à jouer, parce que je disais, même si c'est s'il n'y a pas grand monde, ceux qui sont là, ils ont payé, ils ont comme tout le monde. Et puis ça nous permet aussi de nous améliorer, quoi, tout simplement. Et donc, du coup, voilà, il ne faut pas oublier que beaucoup de groupes ont commencé tout petit, donc faut pas lâcher prise.
Faut tenir, quoi. Des fois, ça peut prendre plusieurs années, hein, de façon. Donc,
mais comme je disais tout à l'heure, les ogres de Benizos, c'est une dizaine d'années. Aujourd'hui, on ne croirait pas, mais voilà, c'est le temps de se faire le réseau, c'est le temps d'être le meilleur sur scène. Puis des fois, y a, dans un groupe, il y en a qui lâchent, donc il faut trouver quelqu'un pour remplacer. Donc voilà, c'est pas évident au début.
Alors, votre prochain livre, il parlera de quoi?
Il va parler de rock, pour changer.
Ah, c'est étonnant.
Contre, là, c'est plus sur Paris. Et c'est même totalement sur Paris. Et c'est parce que Paris, malgré tout, moi, c'est une ville qui me fascine. C'est la capitale. C'est là où il y a des histoires incroyables, quoi. Donc voilà, moi je suis un amoureux de l'histoire en général, donc j'adore l'histoire de Paris. Et voilà, je me suis dit que ça serait bien de raconter un petit peu l'histoire rock de Paris. Et donc j'ai interviewé des groupes, des artistes, il y a les Washington Dead Cat, il y a San Severino, et puis il y a plein aussi d'endroits comme New Rose à l'époque. Il y a le festival aussi Rock en Seine, il y a le bar La Féline. Il y aura pas mal de trucs assez, on va dire, un peu underground, comme aussi Feu la Miroiterie aussi, qui était un squat très connu à Paris. Voilà, donc il y a les cadavres, enfin il y a Gibus, Bus Palladium, voilà, donc il y a vraiment métal urbain aussi. Mmh. Et donc voilà, donc c'est vraiment pour montrer un peu l'esprit d'une ville, un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a aussi ce côté années 80, voilà, avec les années alternatives aussi, tout ce côté-là. C'est montré un peu, c'était surtout à l'époque, dans les années 80, là, c'était un peu un esprit do it yourself. Et où c'était beaucoup plus sympa. Voilà, une nouvelle sur Napo Romero qui a joué longtemps avec Mano Solo. Et c'est toute une époque avec aussi la Mano Negra, tout ça. C'est une époque beaucoup plus positive. C'était, les années 80, c'était l'ouverture des ondes radio, c'était les premières fêtes de la musique. Voilà, ça jouait dans les squats, c'était beaucoup plus festif, beaucoup plus. Après, il y a toujours aussi un côté un peu plus négatif, parce que voilà, beaucoup tombaient dans la drogue, le sida, etc. Mais voilà, moi j'essaie toujours de retenir le côté positif avec ce côté festif. Mmh. Et il y aura aussi Massisteria dedans, j'en profite voilà, pour le dire. Et parce que Massisteria est quand même un groupe qui a commencé de Paris à la base. Mmh. Et donc voilà, donc du coup je parle de tous ces groupes, raconte leur histoire, l'histoire d'une ville, son âme un petit peu aussi. Donc voilà, il y aura tout plein d'artistes, tout plein de choses qui vont décrire Paris.
La date, c'est prévu pour quand à peu près ce livre?
Je croise les doigts pour dans les 2-3 mois.
D'accord.
Okay. Pour cet été.
Ok. Comment on peut se procurer donc les livres qui sont déjà sortis? Est-ce qu'il y a un site internet, la page Facebook, je suppose aussi?
Ouais, bien sûr. Il y a une page Facebook ou par les éditions en fait. Les éditions Abatos en fait. Mmh. Abatos. Donc qui est un éditeur stéphanois, donc voilà, ou soit par moi-même, par la page Facebook. Donc c'est le mieux pour nous.
Ok, écoutez, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Et puis je remercie pour l'invitation.
Mais ouais, j'espère qu'on pourra se réentendre pour le prochain livre.
Avec plaisir, avec joie.
Merci beaucoup.
Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.